considérer le texte liturgique pour ce dernier dimanche. Après la Pentecôte, l'épître est tirée de saint Paul aux Colossiens. Mes frères, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous ayez la pleine connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher de manière digne de Dieu et lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et faisant des progrès dans la connaissance de Dieu, fortifié par la puissance de sa gloire pour tout supporter avec patience et joie. Rendant grâce à Dieu le Père qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous délivrant de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Quand vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel, établie en lieu saint que celui qui lit entende. Alors que ceux qui sont dans la Judée s'enfuient dans les montagnes, et que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre ce qu'il a dans sa maison, et que celui qui est dans les champs ne revienne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car il y aura alors une grande détresse, une si grande détresse qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'ici, qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, nul n'échapperait. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez point. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, et ils feront des grands prodiges, des choses extraordinaires jusqu'à séduire, s'ils le pouvaient, les élus même. Voilà que je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, ne sortez point. Le voici dans le lieu, le plus retiré de la maison, ne le croyez point. Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Partout sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours d'affliction, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande majesté, une grande puissance. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Écoutez une comparaison prise du figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et qu'ils poussent des feuilles, vous savez que l'été est proche. Ainsi, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que toutes ces choses n'arrivent, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces avant le sermon. Donc aujourd'hui, nous aurons le premier repas paroissial, donc n'hésitez pas à vous joindre à nous tous, en bas, dans la salle du sous-sol, donc il y a un chauffage en bas, vous ne serez pas trop frigorifié. Attention pour les messes de semaine, je serai là toute la semaine, mais des horaires un peu spéciaux. Demain, lundi, messe, toutes ces messes en semaine évidemment à Padiès, messe à 8h. Lundi, mardi, attention, je suis obligé de dire la messe plus tôt, j'ai un rendez-vous médical à Albi, donc messe à 7h mardi. Mercredi, jeudi et vendredi, messe à 8h. Samedi, nous aurons un mariage ici. Je marie deux anciens retraitants que certains d'entre vous peuvent connaître, Jérémy Lehou et Isabelle Noireau. Donc, ils se marieront ici. Alors, attention, la messe du samedi ici, messe de mariage, à 10h. Pour les retraites, encore une fois, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Nous sommes 37 actuellement inscrits. Première, deuxième, troisième et cinquième retraite sont pleines. Ce mercredi à 19h, nous aurons le cours de doctrine sur les actes du magistère. Ce cours est bien sûr placé sur Internet, donc vous pouvez aussi le suivre sur Internet. Un fidèle a eu la bonne idée de mettre sur le petit site de la paroisse le texte complet en audio de la L'encyclique de Saint Pie X, Pacem die Domenici Egregis, la grande encyclique contre le modernisme que je viens d'expliquer en long et en large et en travers pendant plusieurs mois. Donc vous avez ce texte maintenant en audio sur le petit site de la paroisse. Merci à celui qui l'a placé là. Samedi prochain, donc ce sera le début de l'Avent, on commencera à installer la crèche, il y en a qui veulent venir aider. Vous voyez, avec Laura Deschard, je pense que ce sera samedi, enfin dans l'après-midi, vers 16h, qu'on commencera à placer une crèche ici, faire quelque chose de beau. J'ai un peu de place ici, alors on va en profiter pour faire une belle crèche. Donc les travaux sont encore une fois pratiquement terminés. Merci encore à tous ceux qui continuent d'aider financièrement pour nous permettre de terminer les derniers travaux. Et encore une fois, il y a le drain placé le long du mur, ici sur le côté de la chapelle, pour éviter les infiltrations dans le sous-sol. Et puis il va falloir aussi s'occuper du parking. Donc encore des choses à faire. J'espère que le bon Dieu nous donnera un signe, comme quoi il permet un autre projet que j'ai à cœur aussi, à savoir de faire une maison de retraite ici, une maison de retraite pour pouvoir prêcher les retraites. Parce qu'actuellement je prêche à l'Edergue, mais je suis limité en place, et donc on va essayer de construire une petite maison de retraite ici sous le préau, avec une quinzaine de chambres. Bon, évidemment, il faut que je trouve des sous pour ça. Donc si vous avez quelques lingots d'or qui traînent à droite et à gauche, je ne sais pas quoi en faire, on peut toujours s'en occuper. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous arrivons aujourd'hui à la fin de l'année liturgique. Pour un catholique, l'année nouvelle commence au premier dimanche de l'Avent, c'est dimanche prochain. Premier dimanche de l'Avent commence une nouvelle année liturgique avec la préparation de Noël. Et cette année liturgique se termine justement avec le dernier dimanche après la Pentecôte aujourd'hui même. Alors en fin d'année, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'en fin d'année, avant le début de l'année nouvelle, qui commence en fait aux premières vêpres de l'Avent, donc samedi prochain au soir, je pense qu'il y a trois mots à prononcer devant le bon Dieu. Merci, premier mot. Deuxième mot, pardon. Troisième mot, s'il vous plaît. Avec ça, vous avez toute la vie spirituelle du catholique. D'abord, remercier le bon Dieu. Remercions le bon Dieu pour toutes les grâces reçues au cours de cette année dernière. Encore une fois, vous et moi, nous pourrions être complètement modernistes. Nous pourrions avoir perdu la foi. Rappelez-vous, Saint Philippe Néri qui disait tous les soirs ou tous les matins, sa prière du matin ou la prière du soir, il disait au bon Dieu, Seigneur, gardez Philippe entre vos mains. Parce que sans votre grâce, ici ce soir, je suis suffisamment bête pour me faire juif ou musulman. Pareil pour nous. Donc remercions le bon Dieu si vous n'êtes pas devenu juif ou musulman. Et pensons à remercier le bon Dieu pour toutes les grâces reçues. Grâce d'avoir conservé la foi. C'est énorme. Grâce de toute une série de dons particuliers que le bon Dieu nous a donnés. Malheur à l'ingratitude. Malheur aux cœurs ingrats qui ne savent pas remercier. Donc pensons à remercier pour toutes les grâces reçues au cours de cette année. Lorsque les gens se découragent un peu en disant « Monsieur l'abbé, j'ai fait une confession générale, j'ai des pages et des pages de péché », après leur avoir donné l'absolution, je leur dis toujours « Mais mettez donc sur un papier maintenant toutes les grâces reçues au cours de l'année dernière. » Et vous verrez que vous avez besoin de plus de papier, davantage de feuilles de papier pour inscrire toutes les grâces que pour inscrire tous les péchés commis. Donc première chose à faire, merci. Deuxième mot à prononcer, pardon. Pardon pour toutes les offenses. Le bon Dieu est prêt à pardonner, à condition évidemment qu'on regrette. Si on ne regrette pas ses péchés, comment que voulez-vous que le bon Dieu pardonne? Donc il faut regretter ses péchés. Et sans se décourager. Et en même temps, le troisième mot important aussi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon Dieu, donnez-moi les grâces dont j'ai besoin. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit expressément. Il a dit qu'il fallait demander. Demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez à la porte et la porte s'ouvrira. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si je ne pense pas demander, à frapper, eh bien j'obtiendrai rien du tout. Il faut penser à demander. On a le droit, on a même le devoir de demander les grâces. Le bon Dieu a préparé toute une série de grâces Et ces grâces souvent sont conditionnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une grâce conditionnelle? C'est-à-dire c'est une grâce que le bon Dieu donne à condition qu'on les demande avec humilité. Il n'y a pas une seule grâce, il n'y a pas de grâce que le bon Dieu refuse si on les demande avec humilité. Si on les demande avec orgueil, bien sûr, on n'obtient rien du tout. Donc pensons à demander avec humilité ces grâces dont nous avons besoin pour l'année qui commence. Si je commence l'année avec la grâce du bon Dieu dans mon cœur, Deo gratias, est-ce que je l'aurai encore cette grâce du bon Dieu à la fin de l'année? N'oublions pas que, encore une fois, sans la grâce du bon Dieu, je ne suis pas capable de rester en état de grâce plus de 5 minutes. Donc pensons encore une fois à remercier le bon Dieu, demander les grâces nécessaires. Chacun d'entre nous, nous avons un certain nombre de grâces à demander pour nous et pour les autres, pas simplement pour nous, mais aussi pour ceux dont nous avons la charge. Entre autres, la grâce qu'il faut demander, je pense aujourd'hui plus que jamais, c'est la grâce de savoir transmettre. Tout pour ceux qui ont des enfants, qui en auront un jour. Savoir transmettre la foi à ceux dont nous avons la charge. Savoir non seulement protéger notre foi, mais également transmettre, protéger la foi chez ceux dont nous avons la charge. Entre époux mutuellement, avec tes enfants. N'oubliez pas que la foi, mes bien chers frères, est quelque chose de fragile. Regardez la France. Regardez ce qui est devenu la France. La France qui était finie d'église, qui en principe l'est toujours. Quel est le pourcentage de la foi catholique en France? Pourcentage officiel, c'est 2,5%. Et mes chiffres datent de plusieurs années en arrière. Je suis sûr que maintenant, c'est moins d'1%. On a 20% de musulmans qui pratiquent leur foi et 1% de catholiques. Donc, il faut demander au bon Dieu la grâce de conserver la foi. Pourquoi? Parce que le bon Dieu nous donne un avertissement très fort dans l'évangile du jour. Tellement fort que même les pères de l'Église avaient du mal à comprendre cette phrase. Le bon Dieu nous donne un avertissement terrible. Il nous dit « L'abomination de la désolation cherchera à rentrer dans le sanctuaire ». C'est dans l'évangile selon saint Matthieu d'aujourd'hui. L'abomination, la désolation cherchera à rentrer dans le sanctuaire. De quel sanctuaire il veut parler? Les pères de l'Église ne sont pas d'accord entre eux. Il y a plusieurs interprétations possibles. Il y en a qui disent que cette abomination, l'abomination, la désolation, c'était une statue de l'empereur Adrien qui avait été placée dans le temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints. Et je préfère une autre interprétation qui est à mon avis beaucoup plus importante. Ce sanctuaire, qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire? Le mot sanctuaire, vous avez le mot sanctus en latin. Sanctus, c'est saint. S-A-I-N-T. La sainteté. Le sanctuaire, c'est un lieu saint. En fait, c'est un lieu sacré. C'est un lieu consacré à Dieu. Quand je rentre dans un sanctuaire, je rentre dans un lieu qui est consacré à Dieu. Et donc, évidemment, quand on rentre dans un sanctuaire consacré à Dieu, tabernacle est au milieu de l'autel, cette chapelle est consacrée à Dieu. Eh bien, quand on rentre dans un lieu consacré à Dieu, évidemment, on ne rentre pas, on ne se tient pas dans ce lieu comme si on se tenait sur une place de marché. Parce qu'on est justement dans un lieu consacré à Dieu. Donc, réfléchir à tout ça. Et quel est ce lieu consacré à Dieu? Mais il y a un lieu particulier qui est consacré à Dieu, c'est de ce sanctuaire dont je voudrais vous parler maintenant. Ce sanctuaire, c'est notre âme, mes bien chers frères. Notre âme est un sanctuaire. Pourquoi? L'âme est un sanctuaire parce qu'elle a été, pour nous au moins, elle a été marquée par le caractère du baptême. Elle a été marquée par le caractère du baptême. Et cette âme, à partir du moment où elle est marquée par ce caractère du baptême, qui est un caractère qui ne peut pas s'effacer, attention, n'oubliez pas. Un caractère est ineffaçable. N'oubliez pas qu'il y a trois sacrements qui donnent un caractère. Le baptême fait de nous des enfants de Dieu. La confirmation fait de nous des soldats de Dieu. Et le sacrement de l'ordre fait du prêtre un ministre de Dieu. Donc nous sommes consacrés à Dieu par ce caractère. Alors notre âme a ce privilège extraordinaire. L'âme, c'est quoi? Une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, dit Saint Pie X. Substance spirituelle douée d'intelligence pour connaître Dieu et de volonté pour le posséder. Car elle est immortelle. Et donc nous avons un caractère de ce baptême. Et ce baptême, si vous voulez, va élever l'âme d'un niveau naturel à un niveau surnaturel. Encore plus haut, encore plus haut. Parce qu'une âme baptisée prend une beauté extraordinaire, un caractère sacré. Toute la différence entre cette chapelle avant qu'elle était bénite et la chapelle avant que le sacrifice de la messe y soit célébré régulièrement et cette chapelle maintenant que le bon Dieu est là, qu'il a pris possession de son temple par la possession dans le tabernacle. Pas du tout pareil. Au début, c'était le même bâtiment pourtant. Avant que le Saint-Sacrement ait été placé dans le tabernacle, on pouvait rentrer, je dirais, sans faire une réflexion à la chapelle, parce que ce n'est pas encore consacré. Mais depuis que notre Seigneur a pris possession de son temple par la Sainte Messe, par la présence réelle de notre Seigneur avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, à ce moment-là, ce temple devient un lieu sacré qui n'était pas auparavant. Pareil pour notre âme. Toutes les âmes sont naturelles pour l'homme. Puisque l'homme est composé d'âme et de corps. Et l'âme, c'est la forme de notre corps. Mais tous les hommes ont donc une âme. Ayant une âme, ils sont tous créés à l'image de Dieu. C'est le texte du livre de la Genèse qui le précise. Tous les hommes sont créés à l'image de Dieu parce qu'ils ont une âme. On n'est pas créé à l'image de Dieu à cause de notre corps, bien sûr que non, puisque Dieu est sans corps. Dieu est un pur esprit. Donc c'est notre âme qui fait de nous le fait qui nous permet d'avoir été créés à l'image de Dieu. Mais certains sont créés avec une lumière supérieure, une lumière qui se rajoute, une lumière surnaturelle, qui est la lumière du baptême. Et à ce moment-là, on devient non pas simplement créé à l'image de Dieu, mais aussi à la ressemblance de Dieu. On ne peut pas perdre l'image de Dieu en nous, c'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas avoir un homme sans âme. Des gens sans âme, il n'y a pas beaucoup qui se promènent dans la rue. Il y a des gens sans âme sur la terre, ils sont dans un cimetière. Dans les cimetières, dans les cercueils, on aura une séparation entre corps et l'âme. Mais tous, nous avons une âme, donc on ne peut pas perdre le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais, attention, on peut perdre le fait que nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, et c'est justement ce caractère de l'âme qui ne peut pas être détruit. Le caractère de baptême. Mais attention, encore une fois, il y a un troisième degré. On peut passer de l'âme simplement créée par Dieu, pour tous les hommes, l'âme baptisée, deuxième étage, troisième étage, l'âme baptisée avec la grâce sanctifiante. Si je vis un tel péché mortel, est-ce que je suis toujours baptisé ? Oui. Je ne peux pas perdre le caractère de mon baptême par le péché mortel. Mais le péché mortel me fait perdre la charité. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc, le bon Dieu me demande non simplement d'être fier du caractère du baptême que j'ai reçu dans mon âme, que je recevrai un jour si le bon Dieu veut. Le bon Dieu me demande aussi de comprendre que ce caractère m'ouvre une porte à quelque chose d'encore plus haut, d'encore plus divin, qui est la vertu surnaturelle de charité, la vertu théologale de charité. Et c'est ce troisième niveau qui est demandé pour aller au ciel. Il est de foi que tous ceux qui meurent, qui passent devant Dieu au jugement après la mort, et qui sont en état de grâce, c'est-à-dire qui ont la vertu de charité en eux, et qui habitent, en eux habitent il y a le temple du Saint-Esprit, la Sainte Trinité habite dans une âme en état de grâce, à ce moment-là, la porte du ciel nous est ouverte. Mais il est également de foi que, si malheureusement, je ne suis pas en état de grâce, le jour de ma mort, je ne peux pas aller au ciel. Et il faut réfléchir à tout ça. Pensez, j'ai un sanctuaire dont j'ai la charge. J'ai un lieu sacré en moi qui est cette substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. Malheur à moi si je profane ce sanctuaire. Malheur à moi si je laisse l'abomination de la désolation pénétrer dans ce sanctuaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette abomination de la désolation ? Eh bien, l'interprétation la plus classique, c'est que l'abomination de la désolation, c'est le péché. Le péché mortel. Le péché mortel n'est pas simplement une abomination, mais une abomination de la désolation. C'est difficile d'aller plus bas. C'est comme si, lorsque je laisse pénétrer le péché mortel dans le sanctuaire de mon âme, c'est comme si je rentrais dans l'église et je prenais les hosties consacrées, j'allais les jeter dans le parc à cochons. C'est exactement ça. Donc oui, cet évangile doit nous faire comprendre deux choses. La dignité extraordinaire qui est la nôtre, parce que justement nous avons une âme qui est marquée du sacrement de baptême, mais la responsabilité qui est également la nôtre de garder cette âme sans la corruption du péché. Le bon Dieu, dans sa miséricorde, a permis que si je commets une faute grave et que je perds la grâce sanctifiante, donc je perds la vertu théologale de charité, je peux la retrouver, heureusement. Je peux la retrouver par une bonne confession, je peux la retrouver même par un acte de contrition parfaite. N'oublions pas, c'est l'enseignement de l'Église, c'est un enseignement très consolant. J'ai le malheur de commettre une faute grave et que je ne peux pas me confesser immédiatement parce que je n'ai pas de prêtre à ma disposition. Eh bien, si vous regrettez, si je regrette mes péchés du fond du cœur, le péché commis du fond du cœur, par amour de Dieu, pas par simple crainte de l'enfer, ça c'est la contrition imparfaite, par amour de Dieu, le bon Dieu efface tous mes péchés, sans confession. Parce que justement, l'amour de Dieu qui rentre dans cette âme, c'est un acte de charité parfaite qui efface tous les péchés. Et si j'ai un grand amour de bon Dieu, non seulement le bon Dieu peut effacer mes péchés mortels sans confession, mais peut même effacer les fautes, les peines du purgatoire liées à ces péchés. Tellement la miséricorde du bon Dieu est grande. Bien sûr, comme je ne peux jamais être certain d'avoir eu cet acte de contrition parfaite, c'est une grâce extraordinaire. Donc le bon Dieu, l'Église catholique nous demande, si j'ai commis une faute grave, d'aller me confesser, bien sûr. Mais ne pas se décourager si je ne peux pas me confesser immédiatement après une faute grave, parce qu'encore une fois, le bon Dieu pardonne. Le bon Dieu est prêt à pardonner tous les péchés, à condition qu'on les regrette. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. L'abomination de la désolation, c'est ça. Le péché grave, c'est quelque chose de sérieux, mes bien chers frères. C'est pour ça qu'on l'appelle péché mortel. Ça veut dire quoi? Qui tue l'âme. Qui tue notre âme. Est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce qu'on réalise ce que c'est qu'une faute grave? Rappelez-vous, Saint-Louis qui expliquait ça à Joinville, son sénéchal, son premier ministre de l'époque. Et il pose la question à Joinville, vous connaissez cette histoire, si vous avez le choix entre attraper la peste ou commettre une faute grave, qu'est-ce que vous prenez? Et Joinville, qui a peut-être un peu trop de bon sens matériel, a dit, ouh là là, la peste, on en meurt. Péché mortel, je peux laisser confesser, donc je préfère prendre le péché mortel. Il s'est fait sérieusement tenser par son roi, qui lui a dit, pas question. Parce qu'il y a une gravité dans le péché mortel, qu'il n'y a pas dans la peste. La peste est un mal relatif. Le péché mortel est un mal absolu. Oui, bien, chers frères, il faut vraiment réfléchir à toutes ces choses. Il faut être convaincu, absolument convaincu, de plusieurs choses. Première chose, il faut être convaincu, c'est que le plus important, c'est la conversion de mon cœur. Cette phrase avait été placée dans le directoire d'une magnifique école, l'école de la Pérodière, près de Lyon, qui a été fondée par Mlle Quenette. Elle est peu connue. Luce Quenette était une grande amie de Mgr Lefebvre. Et il appelait l'école de la Pérodière. Mgr Lefebvre a l'habitude d'appeler cette école mon petit séminaire. Et beaucoup de vocations sont venues de cette école. Et la directrice de cette école, Luce Quenette, avait un règlement pour l'école. Et tous les enfants devaient connaître ce règlement par cœur. Et ce règlement était expliqué tous les jours, une ou deux lignes du règlement par les professeurs. La première ligne, c'était celle-là. Le plus important, c'est la conversion du cœur. Conversion du cœur, le mot convertere en latin, un mot très fort. Conversion, ça veut dire changement. J'étais tourné vers le péché, je me tourne vers notre Seigneur Jésus-Christ. Le péché, c'est quoi? Comment définir le péché? La plus belle définition, c'est celle de saint Thomas d'Aquin. Aversio ad Deo, conversio a creaturas. Se détourner de Dieu pour lui préférer la créature. Dieu est dans mon âme, il règne dans mon âme comme roi. Mon âme est un sanctuaire, j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'ouvre la porte, je le mets dehors. Et je dis, bon Dieu, écoutez, vous êtes bien gentil, mais là vous me gênez un peu, alors allez faire un tour dehors. J'irai vous rechercher, vous rappeler peut-être plus tard. Et par cette même porte que Dieu vient de franchir pour quitter mon âme, porte qu'il avait déjà franchie pour rentrer dans mon âme le jour de mon baptême, je fais rentrer une créature, quelle qu'elle soit. Ça peut être une personne, ça peut être de l'argent, ça peut être une bouteille de vin, ça peut être n'importe quoi. Et donc, dans le c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Dans le péché, il y a un sacrilège. Parce que justement, l'âme est un sanctuaire. Et la profanation d'un sanctuaire, c'est ce qu'on appelle un sacrilège. En plus de sacrilège, le péché mortel est plus qu'un sacrilège. C'est aussi une idolâtrie. Parce que je me mets à adorer quelqu'un qui est un faux Dieu. Si je mets devant le vrai Dieu dehors, encore une fois, ça fait un appel d'air. Je vous ai expliqué ça, je crois, dimanche dernier. Ça fait un appel d'air. Et à ce moment-là, les faux dieux arrivent. Donc, je suis convaincu que le plus important, c'est la conversion du cœur. Et ensuite, Mlle Connett disait, deuxième article, le péché mortel est l'unique vrai mal. L'unique vrai mal. Donc, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est l'unique mal absolu. Si le problème, c'est qu'on a bien du mal à comprendre ça. Imaginez que vous ayez mis toutes vos économies dans un tiroir à la maison. Puis un beau jour, vous avez besoin de vos économies, vous étirez le tiroir et puis il est vide. Un voleur qui est passé, qui a tout volé. Pendant combien de temps vous êtes en colère? Ouf, je l'avais. On va entendre parler pendant 6 mois. Maintenant, il y a un péché mortel sur la conscience. Vous allez vous confesser, c'est valable pour moi aussi, bien sûr. Je vais me confesser. Je reçois l'absolution du prêtre. Je retrouve l'état de grâce. Je retrouve la splendeur de la charité. Et je repère, au bout d'un jour ou deux, je repère l'état de grâce par une faute grave. Pendant combien de temps je vais être en colère avec moi-même? Ou on me se lavait au moins 5 minutes. Donc je perds des choses matérielles, de l'argent par exemple. Je suis en colère pendant 6 mois. Je perds le bon Dieu, je suis en colère pendant 5 minutes. Ça veut dire quoi en bon français? Ça veut dire que l'argent est bien plus important que le bon Dieu dans mon âme. Voilà ce que ça veut dire. Et il faut réagir et comprendre toutes ces choses-là. Pour veiller, troisième article de l'école de la Pérodière, écrit par Mademoiselle Connett, je dois veiller à garder l'amour de notre Seigneur. Pour combattre sans me lasser chaque jour et me transformer volontairement chaque jour. Garder l'amour de notre Seigneur, c'est garder la charité. Donc je dois garder cette vertu de charité. Combattre sans me lasser, parce qu'il y a un combat constant, pour me transformer volontairement chaque jour. Il faut que chaque jour, je puisse me transformer un peu plus, en me rapprochant un peu plus du bon Dieu. C'est la question qu'il faut se poser. On arrive en fin d'année liturgique. Est-ce que j'ai plus d'amour dans mon âme que j'en avais au début de l'année liturgique l'année dernière? Au mois de décembre l'année dernière, décembre 2023, est-ce que en fin novembre 2024, est-ce que j'ai plus d'amour dans mon âme que j'en avais l'année dernière il y a un an? Est-ce que je fais un progrès dans l'amour de Dieu? Est-ce que je fais un progrès contre le péché? Il est intéressant parfois de faire un examen de conscience, justement pour voir combien de péchés mortels j'ai commis cette année. Combien de péchés mortels j'avais commis l'année précédente. Est-ce que ce nombre va augmentant ou ce nombre va diminuant? Alors demandons justement, mes bien chers frères, demandons à ne jamais, jamais nous décourager. Et comprendre la grandeur de ce que nous avons en tant que catholiques pour le baptême. Une fois, c'était une sortie de repas au séminaire d'école. J'ai peut-être déjà donné cet exemple qui m'a beaucoup frappé. On était en train de discuter avec Mgr Lefebvre. J'étais séminariste à l'époque. C'était aux années 75. Et un séminariste dit à Mgr, Mgr, il vaut mieux être un bon protestant qu'un mauvais catholique. Et j'ai jamais oublié, Mgr a repris fortement le séminariste. Il disait, vous n'avez jamais le droit de dire ça et vous n'avez jamais le droit d'enseigner ça comme prêtre. Parce que le catholique a une marque spéciale qui est le caractère du baptême, que n'a pas le protestant si son baptême est invalide. Donc, mes bien chers frères, en cette fin d'année, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, remercier le bon Dieu de cette marque du baptême. Remercier le bon Dieu pour la possibilité de vous confesser. Remercier le bon Dieu pour la messe. Avec la grâce du bon Dieu, vous avez dû le remarquer sur le site internet dame-marie.net dont je m'occupe, nous avons maintenant plus de 1000 personnes qui se connectent à cette messe. La plupart de ces gens n'ont pas de messe. Je ne connais pas. Je ne connaîtrai sans doute jamais. Mais parfois certains me disent, monsieur l'abbé, pourquoi il y a tant de messes catholiques traditionnelles en France? Pourquoi dans mon pays il n'y en a pas une seule? À un moment, nous avions un fidèle qui vivait en Chine, Shanghai. Messe traditionnelle non unakum à Shanghai, ça ne court pas les rues, hein. Il n'y en a pas une seule. Il fut un temps, il y avait une messe traditionnelle à Hong Kong, dite par la fraternité Saint-Pédis, pratiquement exclusivement pour les travailleurs qui travaillaient à Hong Kong, qui étaient pratiquement tous philippins. Il n'y a plus rien. Ici, vous avez la messe. Et monsieur l'abbé, il faut faire une heure de voiture pour aller à la messe. Oui. Pensez à ceux qui doivent faire des heures et des heures et des heures de voiture. Je vous ai déjà donné l'exemple quand j'étais en Australie, il y a une messe sur la côte nord-est, à Mackay, et à Townsville, je ne me rappelle plus, une des Townsville, c'était. J'avais quelqu'un qui faisait 7 heures de voiture pour venir à la messe. 7 heures de voiture aller, 7 heures de voiture retour. Il habitait il était ingénieur dans les mines, et il venait à la messe. Il venait à la messe une fois par mois. Il avait la famille qui vivait sur place, donc il allait chez son frère le samedi soir, se confessait, assistait à la messe le dimanche matin, partait. 14 heures de voiture. J'ai connu aux États-Unis aussi ces familles qui mettaient les enfants complètement endormis à 6 heures du matin dans la voiture. Hein. Toute la famille dans la voiture, à moitié endormie, et puis on roulait 3 heures pour arriver à 9 heures à la chapelle pour pouvoir se confesser avant la messe de 10 heures. On passait l'après-midi sur place, justement sous la chapelle, dans toutes les chapelles américaines, il y avait ces salles où on pouvait justement se réunir. Et ils faisaient le plein en quelque sorte, c'était comme s'arrêter dans la station-service pour faire le plein de carburant et repartir dans le monde. Donc il faut, mes bien chers frères, que vous considériez vraiment cette petite chapelle humainement insignifiante, mais surnaturellement tellement importante pour nos âmes, justement comme un moyen de faire le plein de notre réserve de carburant spirituel. Ne pas oublier que le bon Dieu est plein d'amour pour nous et nous donne ici toutes les grâces dont nous avons besoin pour arriver à tenir le coup pendant toute la semaine. Ne nous décourageons jamais, mes bien chers frères. Ne nous décourageons jamais, mais sachant justement dire ces trois mots au bon Dieu. Merci, s'il vous plaît, pardon. Alors passons évidemment par notre Sainte Vierge Marie. Notre Sainte Vierge Marie n'a jamais eu de demander pardon parce qu'elle n'a jamais commis de péché. Nous, c'est un mot que nous devons prononcer souvent. Elle n'a pas besoin de le prononcer. Mais elle a dû prononcer les mots dont elle a, surtout le mot de merci. Parce que les grâces, elle n'est pas en demander, elle était déjà pleine de grâces. La très sainte Vierge Marie a accepté de suivre notre Seigneur. Quand on aime notre Seigneur Jésus-Christ, ça mène où? Au ciel? Oui. Mais avant d'aller au ciel, il y a un petit passage obligatoire. Hein. Passage obligatoire pour aller au ciel, ça s'appelle le Golgotha. Avec une grosse croix là, bien lourde, bien pesante. Et le bon Dieu nous demande de passer par Golgotha pour arriver au ciel. Pour cela, qu'au-dessus de l'autel, il y a le tabernacle avec le Saint-Sacrement, et au-dessus du Saint-Sacrement, qu'est-ce qu'il y a? La croix. Pourquoi la croix? Parce que le bon Dieu nous rappelle, l'Église nous rappelle par la croix, que la croix, c'est la clé qui ouvre la porte du paradis. Alors ne nous décourageons jamais, bien chers frères et bien chers amis, nous ne nous décourageons jamais, mais pensons à remercier le bon Dieu et prendre des résolutions qui s'imposent pendant cette année nouvelle qui commence dès dimanche prochain pour que nous puissions justement un jour tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.